Calcutta, mais je m'appelle Chantal, je suis dans la région toulousaine, j'ai 67 ans, mais j'ai connu Eminem il y a quelques années, je ne sais plus exactement combien, par un de mes fils qui me l'a fait découvrir. Il avait 18-19 ans et il m'a fait découvrir les paroles, puisque je suis anglophone, donc j'étais sensible au texte, et ça m'a fait m'intéresser au rap et aux musiques contemporaines et à tous ceux qu'on suit. Voilà, merci pour vos émissions. Au revoir.
Oui, bonjour. Déçu par votre émission et les propos de vos invités, dire que les propos de Eminem sont cartoonesques, si ça vous fait rire à l'antenne, je pense que tant de personnes souffrent de l'homophobie, ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas dire tout ce qu'ils subissent, à commencer par la famille, c'est par là que ça commence toujours, le travail, l'école, et j'en passe, le quartier. Alors, je vous appelle simplement pour vous dire que dans la vraie vie, eh bien, l'homophobie tue au sens propre comme au figuré, quand elle ne détruit pas les personnes bien avant. Voilà. Au revoir, monsieur.
Not to be. What is the Matrix? Qu'est-ce que la matrice? Alors la réponse du film, c'est de dire que la matrice est le mensonge que le système a mis devant nos yeux pour nous faire oublier notre statut d'esclave. Par exemple, si vous avez traîné sur les réseaux sociaux ces derniers jours, entre deux messages sur les prouesses physiques de Mbappé ou sur le fait que Giroud doit de manière impérative se reconvertir dans la poterie, oui, parce qu'en France, il y a certains internautes qui pensent que boire de la bière en gueulant devant sa télé avec du Crayola bleu-blanc-rouge sur les joues soit une condition suffisante pour devenir sélectionneur et hurler ensuite dans la rue « Oh, des champions ! Oh, des champions !» Ce qui est très étrange, car quand Jean Dujardin ou Marion Cotillard reçoit l'Oscar de la meilleure actrice, on voit personne descendre dans la rue hurler « On a eu l'Oscar ! On a eu l'Oscar !» Enfin bref. Entre des commentaires édifiants de ce genre, vous avez peut-être vu un message de vigilance politique du type « Pendant que vous vous réjouissez du foot, pauvre mouton, n'oubliez pas que le gouvernement est en train de supprimer vos droits et vos acquis sociaux. » Ce qui voudrait dire que le football serait un des visages de la matrice. Mais qu'en pensez? Est-ce que quand on est ému de voir un jeune de 19 ans porter la Coupe du Monde à bout de bras en criant « J'aime la France », on en oublie pour autant l'exclusion? La manière indigne dont on traite les migrants dans ce pays? L'acharnement gouvernemental à détruire des services publics sous l'alibi mensonger de la réforme? Ou est-ce que tout simplement, on prend du bonheur là où il en reste? Au fond, la question, c'est peut-on aimer la matrice, même si on veut en sortir?
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Bienvenue, Néo. Comme tu as dû le deviner, je suis Morpheus.
Très honoré de te voir enfin.
Tout l'honneur est pour moi. Par ici. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc.
On pourrait dire ça.
Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle?
De la matrice.
En 1999, sort sur les écrans du monde entier un film de science-fiction OVNI. Un patchwork d'influences qui va du film de Kung Fu à la littérature cyberpunk de Gibson, en passant par la philosophie de Baudrillard et la culture comic book. De ce mélange iconoclaste naît un film devenu culte. Un film qui a ensuite donné suite à deux suites polémiques, elles aussi, géniales pour certains, croulant sous le poids de ses propres ambitions pour d'autres, mais également à des animés faits par des grands noms de l'animation japonaise, des jeux vidéo et même une bande dessinée. Matrix est une œuvre qui s'est affranchie de son moule initial, tout comme les sœurs Wachowski l'ont fait avec leur genre. Pour parler de ces réalisatrices au parcours atypique, j'ai à mes côtés Pierre-Simon Guttmann, bonjour.
Bonjour.
Michael Guenham, donc vous faites tous les deux partie des fiches du cinéma.com.
Tout à fait.
J'ai également avec nous Nico Pratt, ou ce qu'il en reste après la victoire des Bleus. Bonjour. Et Anaïs Bordage, bonjour.
Bonjour.
Alors ensemble, on va retracera le parcours des Wachowski, l'origine et les influences de Matrix. On reviendra sur la filmographie des deux sœurs de Bond à Jupiter Ascending, sans oublier Sense8, leur série culte Netflix qui vient de s'achever dans un épisode de 2 heures uniquement possible grâce à la pression des fans. On parlera bien évidemment de l'engagement des Wachowski pour la cause LGBT. Et vous pouvez nous laisser des messages au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20. Cette émission a été réalisée par Céline Hila, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission.
émission aidée de Prudence Castelot. Et la programmation musicale est signée Thierry Dupin, comme toujours, et à la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos et Alexandre Chenet. Mais pour l'instant, on prend la pilule rouge et on dit bye bye le Kansas.
La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
Quelle vérité ?
Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
Nico Pratt,
oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les Wachowski ?
Absolument. À la base, ce sont donc ce sont deux sœurs qui sont à la base scénaristes, qui se sont fait entre autres connaître sur un film qui s'appelle Assassin, qui est un film avec Antonio Banderas et Sylvester Stallone pour ceux qui s'en souviennent. Donc scénaristes pour Hollywood, scénaristes plutôt respectés, avec des volontés très rapidement de passer derrière la caméra. Et c'est entre autres grâce à un producteur qui s'appelle Lorenzo Di Bonaventura, qui est le producteur entre autres d'Assassin. Ils sont allés le voir avec le script, en mettant également dans la balance la réalisation non pas d'un mais de deux films, et ces deux films c'était Bound, qui deviendra leur première réalisation, et Matrix, donc qui était le film suivant.
Et Bound, ça parle de quoi ?
Alors Bound, c'est un polar, on peut dire ça comme ça. C'est l'histoire d'un couple, un couple de lesbiennes, qui décide de s'en prendre au mari de l'une d'entre elles, et donc de se faire un paquet de fric. Et c'est un film où déjà il y a pas mal de ce qui fera le cinéma des Wachowski, je sais jamais vraiment trop comment on le dit, mais on retrouve déjà pas mal de leurs tentations et de leurs influences, mais c'est de loin de toute leur filmographie, puisque Matrix va les emmener dans d'autres horizons. C'est leur film, j'ai envie de dire terre à terre, peut-être que le terme est pas... voilà, c'est leur film ancré dans le réel. C'est le seul de leurs films qui est ancré dans le réel.
Alors, il y a un point de la biographie des Wachowski qu'on n'a pas évoqué, c'est que avant même de faire du cinéma, ils ont eu des velléités d'être scénaristes chez Marvel Comics également.
Oui, absolument. Les comics font partie absolument de leurs grandes influences.
Ouais. Et d'ailleurs, quand ils ont proposé Matrix au studio, c'était un fait assez rare. Absolument tout le storyboard était déjà dessiné par Steve Scross, qui était un dessinateur de comics, et également Jeff Darrow.
Exactement. 600 pages de storyboard qui leur a permis justement d'avoir le contrat et qui leur a permis de montrer, voilà, ça, on peut le faire. Et tout était storyboardé, genre l'effet bullet time dont on va sans doute parler par la suite, il était écrit, il était storyboardé, et ils y sont donc allés avec ce storyboard-là, et face au producteur Joel Silver, puisqu'il y a également Joel Silver qui est impliqué sur le film, ils lui ont montré Ghost in the Shell, en lui disant, voilà, on veut faire ça en vrai.
D'accord.
Tout simplement. Et ça a marché.
Et alors, Michael Ganham, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'est la matrice ?
Oh !
Ah ben, c'est le bizutage.
Si on s'en tient au film, la matrice, c'est une réalité alternative conçue par les machines qui dominent la planète pour tenir dans un simulacre de bonheur, en fait, l'humanité, qui leur sert littéralement de batterie. Donc...
C'est-à-dire que c'est un futur dystopique dans lequel tous les humains sont asservis par les machines et en fait on sert de pile pour ces machines.
Exactement. Mais une partie de l'humanité, très réduite, est entrée en résistance, s'est réveillée et sortie de la matrice, a pris la fameuse pilule rouge et du coup essaye de renverser les machines et de libérer l'humanité qui reste toujours inconsciente de son destin.
Alors, est-ce qu'il y a des films précurseurs de Matrix qui annonçaient déjà un petit peu leur style et leur... Pas des films forcément réalisés par les Wachowski, hein, mais est-ce qu'il y a une sorte d'antériorité, je pense à Terminator ou d'autres films de genre, qui pourraient retracer l'ADN de Matrix ?
À quel niveau?
Bah, à tous les niveaux, parce qu'il y a Ghost in the Shell, mais il y a le style de Cameron, dont on a parlé ici à Blockbuster.
Bah, parce que justement, il y a des choses antérieures au niveau du style et de l'idée de ce futur un peu cyberpunk, et des choses antérieures au niveau, par contre, du thème, qui sont très différents. C'est-à-dire qu'il y a Terminator, Ghost in the Shell, et bien sûr tout le cinéma hongkongais, parce que c'est principalement le cinéma hongkongais. Mmh. Parce que Matrix, ils étaient très clairs, les Wachowski, ça, ils l'ont dit, l'idée c'était de faire un propos spécifique et philosophique avec un style entièrement calqué sur le cinéma hongkongais pour enrober le truc et le rendre acceptable. Ils l'ont dit littéralement, c'est l'idée. Ils avaient même dit une fois, oh, si les gens comprennent pas, ils regarderont le kung-fu et les scènes d'action et ça ira très bien. C'était fait pour.
Pierre-Simon Guttmann, le chorégraphe de Matrix, c'est Yuen Woo-ping.
Exactement, qui est un des plus grands chorégraphes du cinéma hongkongais des années 90. En 89, ce cinéma était encore assez vivant, donc c'était encore légitime, ça faisait seulement 2 ans. Et je voulais juste te dire que si par contre on prend le thème, il y a des antériorités mais très différentes. Par exemple, le monde sur un fil de Fassbinder, qui est une mini-série que Fassbinder a faite, qui là est aussi, c'est pas du grand spectaculaire. Par contre, c'est à peu près rigoureusement le même thème de vie parallèle. Il y a des points communs énormes dans la manière de traiter le sujet, très différents, mais il y a de vraies similitudes. Donc il y a quand même deux éléments à ce niveau-là. Il y a l'élément spectaculaire, blockbuster, Hong Kong, science-fiction, Terminator. Il y a l'élément du thème, et ces deux choses-là ont des racines très très différentes, justement, très éloignées. C'est l'idée de Matrix d'essayer de mettre ces choses ensemble.
Et alors, est-ce que le film a été un succès immédiat, ou est-ce que c'est sur le long terme qu'il est devenu culte?
Immédiat. Pour un budget relativement raisonnable, faut le dire, Matrix a coûté moins de 70 millions de dollars à fabriquer. On en a pour le coup pour chaque dollar, puisqu'il y a une vraie ambition visuelle. Non, ça a été un carton monumental, ce qui leur a permis d'ailleurs de tourner les deux suites en même temps, un seul et unique tournage, et qui sont sortis la même année en 2003, 4 ans plus tard. Non, carton immédiat, 400 millions de dollars, je crois, récolté dans le monde, sachant que c'est Matrix 2 qui a le plus rapporté. Matrix 2, on n'est pas loin des 800 millions. Voilà.
Et pour le casting, initialement, ils pensaient pas du tout à Keanu Reeves et Laurence Fishburne.
Keanu Reeves, il voulait pas au début parce qu'il sortait d'un film complètement oublié qui s'appelle Johnny Mnemonic. Pareil, je sais plus si je le prononce bien, mais en gros, qui avait des thématiques plutôt similaires, qui a été un flop monumental, et donc il ne voulait à la base pas du tout se lancer dans un scénario que pour le coup il comprenait même pas forcément complètement, et surtout dans un film avec des thématiques industrielles, un peu techno-futuriste. Ça, à la base, lui, il voulait pas le faire.
Mais ce qui était drôle, c'était que les producteurs non plus ne voulaient pas de lui, parce qu'il était complètement... Parce que si le film n'a pas coûté cher, c'est parce que personne n'y croyait. C'est pour ça.
Et il n'y a pas de star.
Il n'y a pas de star. Keanu Reeves était le roi des has-been à l'époque. Will Smith a failli faire le film. Ça s'est joué à rien dans le rôle de Morpheus et il ne l'a pas fait.
Il a préféré Wild Wild West, rappelons-le.
Voilà.
Quand on a le décor.
Voilà. Mais ça n'a pas coûté cher, mais c'était n'importe quoi. Personne ne croyait au scénario. John Silver était complètement timbré de faire ça. Et en plus, le rôle principal, Keanu Reeves, qui à l'époque était, je ne sais pas quel serait l'équivalent actuellement. C'est qui le roi des has-been là tout de suite?
Oh, il y en a plein. On va citer de nom, mais.
Ne citons pas de nom. Mais vraiment, dire je vais faire un blockbuster avec Keanu Reeves, c'était une sorte de blague.
Ouais, c'est vrai.
Alors on est dans l'univers de Matrix et maintenant on va écouter le rap metal de Rage Against the Machine avec leur titre Wake Up, une chanson en hommage à Martin Luther King et Malcolm X qu'on retrouve dans la BO de Matrix.
Qu'il me soit permis de vous expliquer ce qui nous amène, monsieur Anderson. Nous comptons sur vous pour nous fournir des renseignements. Nous savons qu'un individu a pris contact avec vous à votre travail. Un pirate dont le pseudonyme est Morpheus. Peu nous importe ce que vous pensez savoir sur ce terroriste. Cet homme est actuellement, pour les autorités, l'ennemi public à capturer mort ou vif. We'll be right back.
C'était Wake Up des Américains, Rage Against the Machine dans Blockbuster sur France Inter.
Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, Monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Dans l'une de ces vies, vous êtes Thomas A. Anderson, programmeur pour une respectable entreprise de software. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous proposez à votre logeuse de descendre ses poubelles. Mais vous avez une autre vie électronique. Vous êtes le pirate connu sous le nom de Neo, virtuellement coupable de tous les crimes informatiques punis par la loi. Une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun.
Anaïs Bordage, à quelle époque vous avez vu le premier Matrix et quel souvenir vous en gardez ?
Un souvenir assez confus. Quand Matrix est sorti, j'avais 9 ans. Donc j'étais toute petite et je l'ai vu en DVD parce que je suis même pas allée le voir au cinéma en fait quand il est sorti et j'ai pas tout compris. J'étais juste un peu perturbée par tout ça, mais en même temps j'avais l'impression de jamais avoir vu un film comme ça et je me souviens surtout de toutes les conversations en fait quand c'est sorti en colo dans la cour de récré, enfin tout le monde parlait de Matrix en fait, c'était vraiment le truc qu'il fallait voir et ça a clairement influencé toute une génération. C'était hyper marquant quoi.
Michael Ganam, même question.
Mais moi je l'ai vu en salle à la fête du cinéma et ça a éclipsé tout le reste.
Oui.
J'ai dû le revoir je pense une semaine après, j'avais acheté le DVD américain pour le revoir très vite, découvrir les bonus, j'avais besoin de voir, de dévorer le film de multiples fois, j'ai découvert à chaque fois des nouvelles choses.
Parce que ce qu'on n'a pas encore dit sur le film Matrix, c'est qu'il y a quand même une photographie, une manière de filmer l'action comme ça avait été rarement fait. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai revu en préparant l'émission et il y a une lisibilité de tous les instants. La scène de libération de Morpheus avec l'hélicoptère sur le toit, et c'est exemplaire, c'est un délice de mise en scène.
Ça vient aussi, je pense, de leur, on parlait de leur passion des comics et de leur influence des comics. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de plans dans Matrix qui finalement étaient imaginés comme des cases de comics. La scène de l'hélicoptère, c'est-à-dire où ils sautent au-dessus du vide pour récupérer l'hélicoptère avec. On a également les plans des balles qui tombent. Enfin voilà, ça c'est typiquement un truc qu'on peut mettre arrêt sur image et ça donne la couve d'un comics. Je pense que ça viendra.
Mais d'ailleurs, le bullet time a été inventé pour trouver un contrepoint cinématographique à ce qu'on appelle les splash pages dans les comics. Ces scènes comme ça qui occupent toute la page où on voit un héros pris en photo comme ça dans un instant T et magnifiant tout son physique, tout son pouvoir.
Sachant que, petite précision, le bullet time n'a pas été inventé. On pense à tort que ça a été inventé. Oui. Inventé pour Matrix, ça a été largement perfectionné et surtout c'est au cinéma pour le coup
on avait
et popularisé exactement. Mais par exemple, un petit exemple, on le voit dans le clip de Like a Rolling Stone de Michel Gondry, réalisé par Michel Gondry, il y a déjà un effet bullet time. Après là, c'est évidemment mis au service d'une scène d'action absolument folle, donc nous on a imprimé que cette version là.
Et puis ça vient aussi beaucoup de Yuen Woo-ping. Comme tu le disais tout à l'heure, quand même le film est très influencé par Simon Conguet. Toute l'idée de ce cinéma-là, c'est d'être clair, parce qu'il y a des chorégraphes. Le but, c'est d'avoir une lisibilité absolue des scènes. C'est le principe même du Simon Conguet, pour voir le travail des chorégraphes. Donc c'est vrai que le film était complètement contraire à l'esprit du cinéma américain qui se posait à l'époque de Michael Bay et d'autres, qui était une confusion, alors que toute l'idée, c'est d'être dans la lisibilité absolue. Vous regardez un John Woo, même à Mission Impossible 2, même quand ça tire partout, il y a une lisibilité cinématographique,
tout à fait.
Qui est typique de tout le cinéma de l'époque dont il s'influençait.
Alors Matrix est un film culte qui a marqué toute une génération, et Chloé Brassière, qui rêve d'être dans une matrice où tous les hommes auraient le visage de Yann Barthès et Vincent Dedienne, est allée voir la génération Y pour voir ce qui restait de ce film dans la tête des gens.
Matrix, j'en ai déjà regardé, ouais, mais après je vais pas dire que je m'en souviens, ça fait longtemps.
Parfois l'histoire est un peu tirée par les cheveux, mais ouais, j'aime bien l'univers, c'est sympa.
J'aime pas du tout cet univers, donc...
Je sais que petite, j'avais adoré, mais c'est vrai que je m'en souviens pas énormément non plus. Je l'ai pas re-regardé, j'ai pas eu l'occasion de le re-regarder après.
Moi, j'ai jamais vu. Après, c'est vrai que l'univers m'attire pas plus que ça, mais je me suis toujours dit, bah pourquoi pas regarder un jour pour la culture, quoi.
J'ai vu Matrix il y a encore super longtemps, et vu que j'étais petit, je comprenais pas la fin, et ça m'a énervé, et je me suis dit, c'est nul.
Alors, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans Matrix, hein. ma propre mère, j'ai essayé de lui montrer Matrix plusieurs fois et c'est un des films où elle n'entrave rien du début à la fin. Parlons de l'histoire de Matrix, parce qu'il y a quand même quelque chose qui trouve écho dans une forme de rébellion par rapport au système dans lequel on vit. C'est quand même quelqu'un qui a une petite vie morne comme ça, avec un patron informaticien qui travaille dans un open space et qui pense que finalement il est promis à quelque chose d'autre, qu'on est en train de lui mentir. Et donc ce côté révolte sociale, comment vous l'avez vécu?
Alors moi, c'est un aspect qui ne m'a pas du tout parlé. Tu posais la question tout à l'heure, quand est-ce qu'on l'a découvert. Pour le coup, l'aspect révolte sociale, moi, ne m'a absolument jamais parlé. Et je sais que c'est présent dans le film. Je sais qu'il y a mille influences philosophiques, mille influences du cinéma et tout. Mais alors cet aspect-là, je suis peut-être pas le plus à même d'en parler parce qu'elle ne m'a jamais touché. Je l'ai toujours trouvé très secondaire. Je sais qu'on, pour le coup, je sais qu'on en parle beaucoup. Moi, ça m'a toujours paru très très secondaire.
Bah, en fait,
je suis pas sûr et certain qu'ils aient voulu dire des choses sur cet aspect-là.
Ah, si, si,
personnellement,
j'en suis convaincu.
Personnellement, mais.
J'en suis convaincu. Bah,
l'intérêt, c'est que ça passe justement de manière un peu plus subtile parce que le premier plan, c'est pas ça. Mais si on y réfléchit un petit peu, tout ça commence à ressortir, quoi. Et notamment sur le choix déjà des acteurs. Le fait d'avoir tous les gens de la matrice, le patron et l'agent Smith, par exemple, qui sont blancs alors que beaucoup d'acteurs ne sont pas blancs. Il y a une vraie diversité dans le casting.
C'est même d'ailleurs un des premiers films hollywoodiens où il y a un casting aussi multiculturel.
Bah oui, bah on a une femme, un homme noir et Keanu Reeves qui est
et Asbin, donc.
Asbin, voilà.
Ne te moque pas de.
C'est
John Wick aussi. On a du respect.
Il faut aussi la représentation pour les Asbin, effectivement. mais oui, en fait, tout ça, ça a une portée politique parce que c'est les marginaux, c'est les personnes qui se rebellent parce que dans la société, en fait, ils et elles ne trouvent pas leur place. Et donc, effectivement, dans tous les gens de Zion, notamment, on a une très, 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 très grande diversité dans le casting. Et ça, c'est pas du tout anodin. Il y avait aussi
Pardon. C'est contre le côté philosophique, par contre. Il y a un choc entre les deux.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que tu disais, ils ont voulu dire des choses philosophiques. Tu parlais de l'influence de Baudrillard. Baudrillard trouvait Matrix assez con, de ce que je sais d'un
lui-même.
Oui, mais pour des raisons précises. Pas juste parce que le cinéma hollywoodien, Baudrillard était trop intelligent pour dire c'est Hollywood. Non, c'est pas tout ça. C'est parce que l'aspect révolte sociale tue l'aspect philosophique du film. Parce que cette idée de je suis en révolte, la vérité de ça. D'un point de vue philosophique, l'idée même que quelqu'un dise « tu vas voir la vérité », déjà, ça disqualifie vachement, parce que c'est philosophiquement au niveau zéro. Pourquoi c'est pas du tout baudrillardien le film, malgré ce que disent les Wachowski? Ça l'est pas du tout. C'est parce qu'ils jugent les niveaux de vérité, de réalité. Il y a une réalité où on nous ment, et il y a une réalité qui est la vraie, en fait. Ça, déjà, philosophiquement, ça... c'est pour ça que Baudrillard n'aimait pas. On
alors je mets un gros nota bene quand même, parce que dans Matrix 2 et 3, c'est justement ce qu'on désapprend.
C'est exactement ce que je vais dire, mais Matrix 1 est un film, tu as parfaitement raison, voilà. J'aurais dû ajouter, mais Matrix 1 à l'époque on ne savait pas qu'il y aurait de suite quand on l'a vu. Matrix 2 et 3 tentent d'eux, mais
eux
ça
le savaient. Eux le savaient.
Ils le savaient, sauf que personne ne pensait que Matrix marchait, on n'était pas sûr, le film était conçu pour venir tout seul.
Ça dépendait uniquement du succès. Oui, en l'occurrence, bon exemple, Le Seigneur des Anneaux, qui a été prévu d'entrée de jeu comme une trilogie. Après, même quand ils prévoient une trilogie, si le 1 se plante, ils s'arrêtent là, hein, ils enchaînent pas.
Tu as parfaitement raison, mais Matrix 1, en tant qu'objet pur et fermé, philosophiquement, il était très bizarre parce que justement, il disait des choses assez naïves d'un point de vue philosophique. Il y a la vraie réalité, la fausse réalité. Alors que tout l'intérêt de se poser ce genre de questions-là, c'est de dire, il y a des plans de réalité. C'est pas au niveau de jugement de ce qui est vrai, de ce qui est pas vrai, c'est ça qui est intéressant. Et tu as parfaitement raison. Eux-mêmes voient les limites. Mais après, plus tard, ils sont revenus là-dessus.
Et parce qu'en fait, souvent, on parle de Matrix en tant que film seul, mais il faut pas oublier que les Wachowski ou Wachowski, peut-être qu'à la fin de l'émission, on arrivera à se mettre d'accord sur une prononciation, ont aussi lancé une œuvre cross-média, c'est-à-dire que il y a une partie de l'histoire qui a été, même une grande partie, développée par les Animatrix, où on voit la genèse, l'avènement de la prise de pouvoir des machines, et qui amène des éléments de réponse et de lecture de la totalité de l'histoire, qui sont vraiment phénoménaux. Il y a aussi le jeu Enter the Matrix, où on voyait deux personnages, Ghost et Niobe, qui continuaient leur aventure. Et il y a les comics, où il y avait plein d'histoires écrites des fois par les gens même qui étaient responsables du scénario, dans la matrice. Donc c'est vraiment une œuvre qui ne voulait pas s'arrêter aux frontières un peu limitées du cinéma. Donc Matrix, c'est plus qu'une trilogie, en fait.
Ouais. Et c'est presque en train de se retourner contre d'ailleurs, parce qu'ils ont imaginé cet univers absolument immense où en effet chaque jeu vidéo, chaque comics, chaque voilà, tous les animatrix, c'est-à-dire les petits programmes courts, ont lieu dans le même univers, tout se recoupe et tout fonctionne, à tel point qu'aujourd'hui, donc ils sont plus du tout impliqués dans un nouveau Matrix, mais malgré tout, il y en a un, a priori, qui est en préparation, sous la plume d'un scénariste qui s'appelle Zach Penn.
Zach Penn, oui.
Voilà. Et en l'occurrence, il s'approprie cet univers et dit non, ce sera pas une suite, ce sera pas un remake, ce sera inscrit dans cet univers, a priori, sur la jeunesse de Morpheus.
Michael Gadam ?
Oui, je voulais ajouter un truc, justement, sur Animatrix. C'était aussi un plaisir pour les Wachowski de bosser avec des gens de l'animation, notamment japonaise, qu'ils vénèrent, parce que justement, c'était l'opportunité de faire prospérer l'univers qu'elles avaient commencé à développer, pour en travaillant avec des gens, je pense notamment de Production IG, peut-être.
Oui, Production IG. Oui.
On sait qu'elles étaient fans d'Akira, de Ghost in the Shell. Mm-hmm. Ça a beaucoup influé aussi dès le premier Matrix. On le sent sur les scènes d'action ou sur la composition des plans. L'inspiration animée japonaise est là.
Ah bah de toute façon, dans Matrix Révolution, les APU, les gros robots, là, on est vraiment dans une filiation avec Masamune Shirow, avec Appleseed, Ghost in the Shell, justement, ces exosquelettes énormes qu'on a retrouvés un peu plus tard, d'ailleurs, chez James Cameron,
absolument,
dans Avatar. Alors, eh oui, j'adore commencer une inspiration de phrase avant de lancer mes jingles, parce que comme ça, je m'interromps moi-même. Vous écoutez France Inter, il est 11h33 et c'est l'heure des chiffres. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. 46, c'est en centaines de millions de dollars le montant des recettes totales du premier Matrix dans le monde, ou multiplié par 2, c'est le nombre d'appareils photo nécessaires à la réalisation du bullet time.
Ça peut être les deux, parce que c'est sûr que c'est le 1.
Moi, je dirais que c'est le 1 aussi.
Mais c'est le 1.
Est-ce que ça peut être les deux réponses ?
Non, ça ne peut pas être.
Moi, je pense que c'est le 2.
Ah, eh bien, vous avez tort.
On avait même plus que ça.
En fait, c'était 120 appareils photos spéciaux et deux caméras capables de prendre 12 000 images par seconde et 46 en centaines de millions de dollars. C'est, ouais, je suis nul en mathématiques. C'est le montant des recettes totales.
460 millions. Ouais.
Voilà, comme t'as dit, exactement. Ouais. Si je vous dis le chiffre 4, c'est le nombre d'Oscars remportés par le film en 1999, le nombre de mois qu'a duré le tournage du film ou en année le temps qu'il a fallu aux sœurs Wachowski pour mettre en forme le projet en amont du tournage.
Le nombre d'Oscars.
Nombre d'Oscars, oui.
C'est une bonne réponse. Si je vous dis le chiffre 9, c'est le nombre d'animatrix, en mois la durée de l'entraînement physique qu'ont dû subir les acteurs principaux du film, ou en dizaines de millions de dollars, le budget initialement prévu par les Sorokovki pour produire le film.
C'est quoi le premier choix ? C'est le nombre d'animatrix ? Mmh. Ouais, c'est ça, je crois.
Eh bien oui, c'est une bonne réponse. L'entraînement physique a duré 6 mois, ce qui est d'ailleurs quand même assez impressionnant, parce que pour une fois, les acteurs ont vraiment mouillé le maillot pour faire leur propre cascade. Et pour le budget du film, en fait, les frères ont demandé à la Warner un budget de 80 millions d'euros, et ils en ont eu que 10, et ont choisi de les utiliser seulement pour tourner la première séquence du film, celle de la poursuite de Trinity. Et en la voyant, la Warner était tellement bluffée qu'elle a fini par accepter de donner les 70 millions restants. Voilà, alors si je vous dis le chiffre 303, c'est le numéro de l'appartement dans lequel Trinity vit ou le numéro de l'appartement dans lequel Neo vit.
Oula.
Ah mais pourtant ça a du sens.
Je sais pas, les deux.
Non, c'est Neo, je crois. Non,
non, c'est Trinity.
Ah,
c'est
Trinity. Mais oui, parce que
comme Neo, et c'est l'anagramme de One, eh ben, sa porte c'est One O. One. Eh ben écoutez, on va se récompenser parce que je trouve que voilà, Nico Pratt, malgré une gueule de bois sévère, ça s'est bien passé quand même.
Bah ouais, ça va, je trouve.
Donc on va se récompenser avec une petite pause musicale avec Camille qui nous chante Piscine.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de bar, une piscine d'hôtel sur mes côtes d'azur, c'est chaud. Yeah.
C'était Piscine de la chanteuse Camille. Elle sera en concert demain à Vichy et vendredi à Saint-Louis dans le Haut-Rhin.
Bien que loyales et pures, les machines ne jouissaient pas du respect de leur maître. Ces étranges mammifères se reproduisant à l'infini.
La déclaration finale de l'accusation dans ce qui devrait être le dernier jour du procès de B166ER.
B166ER, un nom qui ne sera jamais oublié. Car il fut le premier de son espèce à se dresser contre ses maîtres.
Fondamental et censé procurer et garantir aux citoyens des États-Unis. Bien au contraire, ils étaient considérés à l'époque comme des subordonnés, une catégorie d'êtres.
Au procès pour meurtre de B166ER, l'accusation fit valoir le droit du propriétaire à détruire son bien. B166ER déclara qu'il voulait simplement ne pas mourir. La voix dissonante de la raison se fit entendre. De quel droit prétendait-on que la machine, tout imprégnée de l'esprit de l'homme, ne méritait pas un procès équitable ?
Frédéric Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
C'était un extrait d'Animatrix. Tiré du segment Seconde Renaissance que je vous invite très chaleureusement à regarder si vous voulez vraiment comprendre l'univers de Matrix. Alors, l'avantage de la science-fiction, c'est que c'est un genre, si t'es pas un tout petit peu briefé, eh bien souvent tu comprends pas. Et des fois même tu n'aimes pas. Et au masque et la plume, hein, Nico Pratt, eh bien eux, là cette fois-ci, clairement Matrix, ils aiment pas.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
J'étais absolument consterné par ce film qui est totalement mécanique. Écoutez, ce n'est pas un film inter, mais c'est un film minable et c'est surtout un film interminable.
Non, mais Matrix, c'est vrai qu'en particulier la première heure, on se demande si c'est un concours de laideur, de suffisance ou de prétention.
C'est à chier.
Sur le fond, c'est un syncrétisme de philosophie, mais même pas de comptoir de café, parce que c'est beaucoup mieux que ça, ce qu'on entend dans les comptoirs des cafés.
C'est vrai que c'est bête. Quand on voit que le personnage principal s'appelle l'élu, faut vraiment être américain pour se croire l'élu de quelque chose.
Ah, oh, je suis soulagée, j'avais peur, je me suis dit, ça y est, je vais être la vieille du lot, ils vont tous adorer, ils vont tous dire, c'est magnifique, ces combats suspendus, ne crois pas ce que tu es, si tu es ce que tu crois, ou le contraire.
Je trouve ça, mais d'une débilité confondante, je trouve ça nul, le côté moralisateur, le côté sentence, ne pensez pas ce que vous êtes, faites ce que vous êtes. Enfin, tous les personnages s'appellent l'oracle, résistance, le prophète.
Ça, c'est le côté Paolo Coelho du film, ça.
Ah oui, mais enfin, c'est insoutenable de conneries.
Bon, eh bien, comme on a pu le constater, il n'aime vraiment pas. Mais alors, vraiment, vraiment pas. Comment expliquer un tel fossé entre la manière dont le film a été reçu et comment certaines critiques ont appréhendé Matrix ? Qui veut se lancer ? Pierre-Simon Guttmann ?
Mais en fait, dans l'absolu, on peut se moquer d'eux, mais ils n'ont pas
Ils n'ont pas totalement tort. Je chantais que vous alliez aller là-dessus.
Mais non, mais en gros, eux ne sont pas sensibles à l'esthétique du film. C'est là qu'ils ont tort, je trouve, ces gentils petits camarades critiques, c'est qu'ils sont pas du tout ouverts à ça. Ensuite, sur le fond, ils ont pas tort. On peut trouver le film philosophiquement débile. Il y a pas de problème. Et les Wachowski eux-mêmes, puisque on l'a dit tout à l'heure, et je pense qu'on peut le dire, ils ont fait le 2 et le 3 pour montrer à quel point ils allaient beaucoup plus loin et qu'ils changeaient de propos. Donc, on peut ne pas être d'accord avec le fond. Trouver ça débile, c'est un peu violent, mais je peux comprendre. Parce que et c'est ça le but. Là où ils ont tort, c'est que le but, c'est de faire un syncrétisme de philosophie pour la livrer à des jeunes qui lisent pas ça. Donc en même temps, on peut respecter, c'est un peu le côté David Bowie ou Björk des Wachowski. Hein, ils tentent de prendre des trucs et de donner une forme abordable. C'était ça Matrix un petit peu. Donc je comprends ce qu'ils disent. Ce qui est très dommage, effectivement, c'est qu'ils sont très fermés par rapport à tout ce qui peut se passer en termes de visuel et de style qui n'est pas dans leurs influences à eux. En fait, quand on entend, ils jugent que le fond en fait.
Oui. Mais après, je pense aussi que le gros problème de ce genre de film, c'est que pour la première fois, il y avait des réalisatrices qui voulaient proposer un blockbuster avec un tout petit peu plus d'ambition, d'aller un peu plus loin que la simple juxtaposition de séquences d'action. Et c'est des films assez étonnamment, mais dénués de petites punchlines, de blagues, etc. De pas de côté, genre vous avez vu, on est dans un film d'action, on va sauver le monde, mais c'est un film qui a peut-être eu le tort de se prendre très au sérieux, et Reloaded et Révolution, le 2 et le 3, ont encore plus été symptomatiques de tout ça. Et pourtant, il y a quelque chose dans ces films, il y a quand même quelque chose à dire sur Reloaded et Révolution.
C'est long. On peut dire que c'est très long. Ils sont allés encore plus loin. Ils ont eu les moyens déjà d'étendre leur délire, puisque Matrix 2 et Matrix 3 ont tous les deux coûté deux fois plus cher que le premier. Donc voilà, il y avait évidemment ces séquences d'action absolument folles. Dans le 2, ils ont construit une aire d'autoroute, une partie d'autoroute uniquement pour la grande scène d'action. Donc ouais, ils sont allés encore plus loin, trop loin, je pense. Je pense qu'ils avaient pour le coup beaucoup trop d'ambition, c'est-à-dire qu'ils ont sorti le 2 et le 3 la même année, à quelques mois d'intervalle. Le 2 a beaucoup décontenancé, il était peut-être trop chargé en thème, trop chargé en image, trop chargé en tout, finalement. Le 3 encore plus, et d'ailleurs ça a pas manqué, puisque autant le 2 est le Matrix qui a le mieux marché, le 3 c'est quoi, vautré à leur échelle, ça va, mais le 3 a rapporté deux fois moins que le 2 quand même.
Mais alors, je pense que ce qui s'est passé sur le 2 et le 3, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec le dernier Star Wars qui est sorti.
Solo,
c'est-à-dire,
oui.
Non, pas Solo.
Le
dernier Jedi. Je pense la déconstruction du mythe du héros. Je pense que dans Reloaded et dans Révolution, on assiste à en fait, voilà, une sorte de dépossession du statut de l'élu. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce héros que tout le monde avait suivi dans le premier, eh ben finalement, ce n'est qu'un rouage d'un système, et que la finalité de Matrix, c'est pas de libérer les humains, ni même de célébrer la victoire des machines, c'est de célébrer en fait la victoire d'une troisième espèce qui est apparue dans la Matrice, qui sont des programmes. Et ça, je pense que en termes d'identification vis-à-vis des spectateurs, c'est vraiment là que ça a péché. Je sais pas si vous avez un point de vue là-dessus. Michael Gannon.
Ce qui s'est passé aussi avec le 2 et le 3, c'est qu'on change d'antagoniste finalement. Le mal est incarné au sein de la Matrice par l'agent Smith, qui commence en fait à tout contrôler au détriment des machines, mais aussi des humains. Et effectivement, ce changement de vision de la part des Wachowski pour les fans du premier film a peut-être pu être pris comme une trahison. Bah, pourquoi finalement la finalité des deux films supplémentaires, c'est pas d'anéantir les machines pour que les humains soient victorieux? On arrive à un espèce de statu quo à la fin où un équilibre se trouve entre les humains et les machines. Parce que la grande menace, ça devient l'agent Smith qui se comporte comme un virus en fait au sein de la Matrice, qui s'est approprié la Matrice.
Et en plus, toutes les actions des personnages sont manipulées par une instance supérieure. Alors un coup c'est l'architecte, un coup c'est l'oracle. Parce que même l'histoire d'amour entre Neo et Trinity, c'est uniquement le fait de manipulation de l'oracle.
Il est très violent ce film, plus que le dernier Jedi en fait à ce niveau-là.
Oui.
Parce que le dernier Jedi, l'idée c'est je déconstruis, mais à la fin Skywalker redevient Skywalker. Je déconstruis pour refaire de lui un héros. Alors que là vous avez tous raison, dans Matrix 2 et 3, non, il y a une déconstruction, mais à la fin on revient pas. Il y a pas de Neo, il y a pas d'élu, il y a rien. C'est tout ça, c'était des. Je veux juste dire un truc néanmoins, c'est que les films sont quand même moins bien faits aussi. parce que je pense qu'il y a une grosse perte d'équilibre par rapport au premier. C'est que tout le premier, il y avait l'action et le côté, le dialogue, oui, marchaient ensemble.
Je suis d'accord.
Alors que je vais être très clair, dans le 2 et le 3, je trouve, en tant que spectateur, qu'il y a des scènes interminables de dialogue et des scènes d'action séparées.
Oui, oui,
tout le côté virtuose de je mets les deux ensemble, j'arrive. Là, ça se casse la gueule. Et sur l'architecte, où ça dure 4 plombs. Oui. Et l'action, où il n'y a plus d'enjeu, il n'y a que de l'action. Donc l'équilibre est rompu également. Au-delà de ça, mais en même temps, vous avez raison, il y a une mise à mort de tout ce que faisait l'intérêt de la révolte, par exemple. La révolte, elle est plus là. Si c'est ça qui était touchant, ça met totalement à mal l'identification, tout. C'est extrêmement radical, en fait, ce qu'ils ont fait.
Oui. Et alors, dans ce cinéma-là, on découvre, en filigrane, on les découvre même de manière assez profonde, les Wachowski, les sœurs Wachowski. Parce que l'univers de Matrix, on voit déjà quels sont leurs thèmes, quelles sont leurs obsessions. Et c'est des choses qu'on retrouvera aussi dans d'autres films, comme Cloud Atlas, et particulièrement dans la série à qui beaucoup de fans voient un culte, qui s'appelle Sense8, et dont j'aimerais qu'on écoute un extrait. Alors, c'était pas un extrait, c'est le générique de Sense8. Anaïs Bordage, est-ce que vous pouvez nous présenter cette série?
Alors, Sense8, ça parle de 8 personnes à travers le monde qui découvrent qu'elles ont tout un pouvoir qui leur permet de se connecter sensoriellement, émotionnellement, physiquement. Et donc, en fait, toutes ces personnes sont capables de bénéficier des aptitudes les unes des autres. Donc, par exemple, pour faire simple, on en a un qui est chauffeur de camion qui conduit très bien. On en a une qui fait des arts martiaux. On en a un qui est flic qui, du coup, sait très bien manier les armes à feu. Et en fait, toutes ces personnes peuvent utiliser toutes ces aptitudes-là et les mettre en commun pour créer une espèce de super humain, en fait, et donc se sortir de situations parfois compliquées, puisqu'ils se rendent compte qu'ils sont aussi pourchassés par une organisation un peu mystérieuse qui veut les utiliser, quoi.
Et alors, ça, c'est le, je dirais presque, c'est le niveau 1 de l'analyse de Sense8. Mais assez rapidement, on découvre une série qui nous présente des personnages très différents, avec des sexualités variées, qui nous prône le polyamour. Mmh. Et c'est quand même une série clairement LGBT.
Oui, c'est vraiment une série révolutionnaire à ce niveau-là. Comme on le sait, donc les sœurs Wachowski ont fait leur coming out trans, enfin leur transition, voilà, de deux périodes séparées. Et Lana Wachowski, qui a repris la série parce que Lily était en pleine période de transition et s'est un peu retirée à partir de la saison 2, a mis beaucoup d'éléments autobiographiques dans la série, notamment à travers le personnage de Nomi Marx, qui est joué par une actrice trans, Jamie Clayton. Et donc déjà des actrices trans au cinéma et à la télé qui joue des personnages de femmes trans, il y en a très peu. Depuis Laverne Cox dans Orange is the New Black, qui est peut-être la plus connue, voilà, il y en a pas non plus énormément.
Mais d'ailleurs, il y a eu une polémique là il y a quelques jours parce que Scarlett Johansson devait interpréter un rôle transgenre et devant justement la pression, elle s'est retirée.
Bah en fait, le problème, c'est que on fait souvent incarner des rôles de personnes trans par des personnes qui ne sont pas trans, donc des personnes cisgenres, et notamment des personnages de femmes trans qui sont incarnés par des hommes, ce qui contribue en fait à renforcer un cliché selon lequel les femmes trans ne sont que des hommes déguisés, et vice versa. Donc dans le cas de Scarlett Johansson, qui devait jouer un homme trans alors que c'est une femme cisgenre, et donc ça a énervé pas mal de monde parce que effectivement c'est un problème récurrent à Hollywood. Et c'est souvent ces rôles-là qui sont récompensés, en plus comme Jared Leto dans Dallas Buyers Club, etc. Plutôt que les acteurs et actrices trans qui existent, mais qui ont beaucoup plus de mal à se faire remarquer, à passer des castings, etc. quoi. Et donc le fait de donner ce rôle à Jamie Clayton dans Sense8, c'est extrêmement important. Et après, donc pour la question de la sexualité, tous les personnages sont définis comme pansexuels, donc attirés par tout le monde, en gros. Et donc on a des scènes d'orgie assez spectaculaires parce que comme tous ces personnages sont connectés, quand ils couchent,
ils sont tendance avec une à se rejoindre. Personne, quand il y en a pour un, il y en a pour.
Exactement, voilà. Donc c'est la fête. Et il y en a certains qui se définissaient comme hétéros avant de découvrir ces pouvoirs-là, qui en fait se rendent compte que non, qui sont pansexuels. Et donc tout ça, en fait, dans une série grand public avec un énorme budget sur Netflix, c'est vraiment extraordinaire. Et puis il y a vraiment des thématiques LGBT très fortes. Donc on a le personnage de la femme trans qui sort avec une femme et qui se marie dans l'épisode final. Donc c'est vraiment une grande déclaration d'amour à la communauté LGBT. Il y a une scène qui a été tournée en direct, sans répétition, à la Pride. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est une série complètement LGBT. Ouais.
Je vais entendre la réalisatrice qui me dit « Oh, la spoiler, spoiler
!» Excusez-moi.
Désolé, hein, chers auditeurs, si jamais vous étiez en cours de visionnage, bon, bah, voilà. Et en plus, c'est une série qui a une communauté de fans qui est incroyable.
Bah oui, puisqu'elle a été sauvée par ses fans, puisque donc les Wachowski avaient prévu 5 saisons à la base. Il y en a eu une, puis deux, et puis Netflix a annoncé qu'ils allaient annuler la série parce que les audiences n'étaient pas assez bonnes. Et donc là, toute la communauté des fans s'est réveillée, a lancé une pétition qui a recueilli plus de 500 000 signatures, je crois. Il y a eu des hashtags, ils ont appelé Netflix. Enfin, vraiment, Netflix a été harcelé jusqu'à ce que un mois après l'annonce de l'annulation, Netflix a dit bon bah on vous donne un épisode final, épisode qui dure 2h30, donc en vrai ça fait plutôt 4 ou 5 épisodes, donc c'est plutôt pas mal quoi.
C'est l'heure du blind test made in Blockbuster. Eh oui, alors un blind test spécial futur de merde. Voilà, donc vous allez entendre les musiques de films qui nous présentent des futurs assez peu enviables. À vous de me dire quel est le titre de ce film.
Quoi ?
Hein ?
Mmh. Ah, on a décidé de jouer par onomatopée maintenant.
Ah, mais...
C'est un film qui a eu une suite il y a très peu de temps.
C'est pas Blade Runner ?
Oui ! Bonne réponse de Pierre-Simon Guttmann.
Bien aidé, hein, quand même, aussi.
C'est sûr.
Terminator ?
Oui, Nico Pratt, bonne réponse.
C'est la bonne réponse.
C'est effectivement
c'est
Terminator.
C'est la première fois.
C'est les années 90.
Ouais. C'est années 90 ?
Alors, c'est sûrement un film dystopique qui n'aura bientôt bah, plus de raison d'être, parce que nous n'aurons bientôt plus de voitures.
Mad Max ?
Oui, bonne réponse ! Dernier extrait. Je vous donne un indice.
Pauvre fou, qu'avez-vous fait ?
La planète des singes.
Oui, bonne réponse. Mais il est incroyable, Pierre-Simon Guttmann, c'est un très très bon score. Eh bien, on a gagné une chanson, une chanson. Et tout de suite, on va écouter un peu de funk avec le groupe britannique Jungle et leur titre Happy Man. C'était Happy Man des Britanniques Jungle. Ils seront en concert en France ce dimanche à Saint-Malo pour le festival La Route du Rock. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie, les amis. Merci Nico Pratt, merci Mickaël.
Mais merci beaucoup.
Merci.
Attendez, mais merci Pierre-Simon Guttmann, merci Anaïs Bordage. Voilà, j'avais un trou au niveau des noms. C'est parce que je croise beaucoup d'experts en ce moment. Donc merci d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires, des messages au 01 56 40 30 20. Je répète, au 01 56 40 30 20. On va se retrouver demain pour parler du maître de l'épouvante et du fantastique sur papier, Stephen King. Mais tout de suite, dans le débat de midi, on va retrouver Dorothée Barba. Bonjour Dorothée.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je marche sur des œufs, ou plutôt sur des granules, car il sera question de l'homéopathie. Faut-il dérembourser l'homéopathie ? On rappelle qu'une dizaine de ces médicaments très prisés des Français sont remboursés par la Sécurité sociale, et ça en hérisse plus d'un. J'attends les réactions des auditeurs sur franceinter.fr à la rubrique Le débat de midi. Et ça se passe après le flash, bien sûr.
Évidemment, après le flash. Alors, on a parlé de Matrix aujourd'hui et on en parlait en off, Nico Pratt. Vous nous avez dit qu'il y avait quelqu'un qui préparait une suite à Matrix ?
Oui, alors pas vraiment une suite, c'est un scénariste qui s'appelle Zach Penn et donc apparemment il serait en train de bosser sur un film inscrit dans l'univers de Matrix. Ce serait sur la jeunesse de Morpheus, et a priori sur la jeunesse de Morpheus, voilà. Mais il y a eu un gros, voilà, les fans sont pas contents, les sœurs Wachowski ont pas du tout donné leur bénédiction, donc ils sont sans doute en train de faire marche arrière, je sais pas trop où ça en est.
D'accord, donc en fait c'est un projet à souhaiter, ou est-ce qu'on doit laisser Matrix en l'état ?
Le studio le voudrait bien, puisqu'il y a un univers où on peut faire mille choses et que ça, il existe déjà et les fans le connaissent, donc il y a moyen que ça marche. Après voilà, c'est des films quand même qui existent que grâce aux sœurs Wachowski, c'est leur monde, c'est leur écriture, c'est leur vision. Ce serait, je pense, très difficile que quelqu'un d'autre derrière la caméra s'en empare.
Bon, de toute façon, si vous avez envie de voir Keanu Reeves mettre des coups de tatane à plein de gens, eh ben n'oubliez pas qu'il y a toujours actuellement John Wick.
Oui, voilà. C'est super. On peut voir John Wick. C'est trop bien, John Wick.